Il y a un garçon qui me plaît bien.
Tu vas être ma cavalière pour le bal?
Non, ça va pas la tête.
T'as déjà pensé à lui demander ce qu'elle veut ou ce qu'elle aime?
Avoue que t'as perdu ta fleur avec lui. Non, tu délires, je suis certaine que si.
Je vais vous donner des préservatifs.
Non, merci, ça va aller.
Qu'est-ce que c'est que ce charivari?
On se reverra quand on sera plus cool, ça vaut mieux.
All right.
J'ai vraiment mis du temps à choisir ce deuxième teen movie. Sur une idée de mon pote Thibaut, je fais un saut dans le passé pour ce deuxième épisode, afin de parler d'un film de 1983, il y a 40 ans donc. Et puis je voulais un film dont le personnage principal était un garçon cette fois, pour changer. Alors une fois devant ma shortlist de films qui correspondait aux critères années 80 plus héros, celui dont on va parler s'est finalement imposé comme une évidence. Sûrement parce que Tom Cruise est une évidence quand il s'agit de parler de cinéma. Cet homme n'a jamais été un choix de cœur pour moi, mais force est d'admettre qu'il fait battre celui de ceux qui font les films et de ceux qui les regardent. Le masculin est important dans cette formulation. Personne n'en parle trop, mais en fait, Tommy Cruise, il a fait ses débuts dans les teen movies, et pas qu'un peu. D'abord un premier mini-rôle dans Endless Love en 81, puis deux rôles plus conséquents où il fait partie d'une bande de mecs very dark dans Outsider de Coppola et Mucho Bas de Plafond dans Losing It. Et enfin, un rôle de sportif, football américain of course, dans All the Right Moves. Ces trois derniers films datent de 83, tout comme celui dont nous allons parler. Vous vous rendez compte, en 83, le mec est à l'affiche de 4 films. Déjà partout, on sent la percée arriver. Et même si c'est Top Gun de Tony Scott en 86 qui le fait entrer dans la légende, d'ailleurs c'est drôle de savoir que le film dans lequel il joue entre Risky Business et Top Gun, c'est un film qui s'appelle Légende et qui est réalisé par Ridley Scott, le grand frère de Tony, bordel tout est relié. Donc je disais, même si c'est Top Gun qui le fait entrer dans la légende, c'est visiblement Risky Business qui lui fait traverser le plafond de verre. Risky Business, son 4e film sorti en 83, est le seul de cette époque qui fera date dans sa filmo. Pourquoi donc? On va voir ce que ça donne, car figurez-vous, je ne l'ai encore jamais maté. Contrairement à Mean Girls, le sujet du premier épisode, qui est un film que vous pouvez retrouver actuellement sur Prime, pour celles et ceux qui l'ont loupé, vous n'êtes pas au bout de vos peines pour Risky Business, qui est indisponible sur toutes les plateformes. Mais vous pouvez le louer sur Apple TV ou YouTube, on a tendance à oublier que YouTube propose aussi un service de location. Et bien sûr, si vous aimez barboter dans l'illégalité, le torrent est trouvable facilement sur le dark web. Je pensais pas à dire, mais quand même, ce film fut le 10e plus gros succès aux États-Unis cette année-là. Le pitch. Joel Goodson, le gamin banlieusard qui, livré à lui-même pendant une semaine, débute des relations avec une escorte de luxe, noie la Porsche à papa et prend une bonne leçon de capitalisme en s'improvisant pimp pour ses potes. Un sacré arc narratif que voilà. Le réalisateur, Paul Brickman, qui est aussi à l'origine du scénario, n'était pas ultra chaud pour Tommy, il aurait bien vu un Michael J. Fox à la place, tiens. Mais une fois que Tommy a passé les castings, il n'y a plus de doute. Il est épaté et tombe sous le charme de ce gosse plein de bonne volonté et méga investi. A-t-il jamais été peu investi dans un rôle? Alors qu'est-ce qui se passe dans ce film? On ouvre sur le narrateur qui raconte son rêve récurrent. Ça commence par un rêve érotique où il s'introduit chez ses voisins pour tomber sur une jeune femme inconnue en train de prendre sa douche. Elle l'invite à le rejoindre et au lieu de tomber sur elle à travers un rideau de buée, il déboule dans une salle d'examen pour une admission à l'université, examen qu'il foire. Ça crée des convenus. Puis on nous plante le décor. Joël, le héros, joue au poker avec ses potes, s'affume le cigare en buvant des bières tièdes en canette, et il raconte une histoire inventée la veille avec la babysitter des voisins.
Alors, j'y suis allé. Il s'est trouvé que, sans le faire exprès, elle s'est aspergée de flotte en faisant la toilette du gosse.
Ouais,
alors elle a fait sécher ses affaires comme de juste.
Tout à fait possible.
Vas-y, raconte. Alors elle se fout par terre, en bas, dans la cuisine, quoi. Je m'allonge aussi à l'oriental, et tout d'un coup, elle me fait de l'œil. Et je l'entends qui dit « Moi, ça me plairait bien. »
Elle t'a dit ça?
Oui,
absolument. Mais toi, qu'est-ce que t'as dit?
J'ai senti que je n'avais rien à dire.
Un peu mythomane sur les bords, le Joël. On manque de confiance en soi, c'est ça? Et puis un plan séquence dans la maison et à l'aéroport où les parents de Joël s'adressent à lui en lui donnant les recommandations pour la garde de la maison pendant qu'ils partent en vacances.
Tu as $50 pour tes courses, c'est bien plus qu'il ne t'en faut. 50 autres pour te dépanner en cas d'urgence et une poire de 25 au cas où.
Surtout, pense à arroser les plantes qui sont dans le patio et le ficus dans le jardin.
Je t'ai mis toute la liste des corvées sur la porte du frigo.
Papa, je fais tourner ta voiture?
Ce ne sera pas la peine, Joël.
Mais pour la batterie, c'est mieux.
Non, je t'en prie. Surtout, ne la sors pas, on n'est pas assuré pour. Si tu sors, tu as le break.
Ou ma mini, chérie.
D'accord.
Joël, je peux compter à fond sur toi.
Absolument.
Oh, arrange ta petite vie comme toi tu l'entends. On sait que tu fais toujours pour le mieux. Confiance et tolérance.
Amusez-vous bien.
Pas de sottises.
Amuse-toi bien aussi, chérie.
Comme tout ado livré à lui-même, il se prépare son premier repas, plateau télé, avec un élément non identifiable, non décongelé, qu'il mange comme une glace, le tout arrosé d'un whisky coca. Arrive la scène culte du film, que même si vous ne l'avez jamais vu, vous connaissez. Tommy en chemise rose et en slibard, qui danse sur le hit All Time Rock'n'Roll de Bob Seger, toute la splendeur de la liberté de l'ado, seul dans cette grande baraque, galvanisant. Puis le petit quotidien du lycée entre fast-food avec les copains, cours d'économie, brainstorm business à l'occasion d'un DM, mais aussi viré en Porsche. Ah bah oui, ça change des balades à bord du bus 62. En Porsche, ça va mater des filles qui attendent dans la rue, ça fait la course-poursuite avec une autre voiture et ça finit la soirée avec des drifts sur le parking. Elle est pas belle la masculinité hégémonique ou quoi? Et on finit en beauté, son pote appelle une call girl pour lui, afin de le forcer à se dépuceler.
Salut Jackie. Ici Joel Goodson, 345 Crescent Glenco.
Arrête!
Je veux bien du plaisir ce soir, au revoir.
Sauf que la call girl qui se pointe est une femme trans pas trop au goût de Joel. Ni vexée ni revancharde, la call girl lui donne le numéro d'une autre, Lana, et elle repart en taxi. Il finit par appeler Lana pour lui donner rendez-vous. Ça m'a beaucoup fait rire de le voir revêtir son masque de baseball quand il lui donne son adresse et son faux nom, Ralph. Il se prépare, boit un verre de whisky en l'attendant et s'endort. Tandis que dehors, le vent se lève et fait tomber son vélo. Serait-ce son innocence qui s'écroule ? Lana arrive enfin et débute une scène de cul complètement fantasmée par le regard adolescent, cheesy as fuck, avec la double porte qui s'ouvre brutalement vers l'intérieur, laissant entrer le vent de la folie charnelle. Il baisse debout dans le salon, dans l'escalier, avec des plans sur les photos de lui petit, c'est dégueulasse, mais aussi sur un fauteuil design pendant que la TV diffuse le drapeau américain vol au vent. C'est n'importe quoi. Le réveil est plus salé, retour à la réalité brusque quand elle lui demande de payer, et vraiment beaucoup plus d'argent qu'il pensait.
Tu me dois 300 dollars, Joël.
Tu rigoles?
Non, je suis tout à fait sérieuse.
Je peux te les envoyer?
Est-ce que tu te fous de moi, Joël?
Je dis ça parce que, enfin ici, j'ai jamais tellement d'argent liquide.
Pas tellement, c'est combien?
Je dois avoir 50 dollars.
50 dollars? Mon petit Joël, c'est embêtant ça.
Vlatipa qui part chercher l'argent à la banque, récupérer toutes ses économies, revient les poches pleines à la maison pour se rendre compte que Lana s'est barrée en emportant l'œuf de Fabergé de sa mère. C'est pas du tout un œuf de Fabergé, mais un œuf en cristal. Alors il va la retrouver à l'hôtel accompagné de son pote, puis ils s'enfuient tous les trois dans sa voiture pour échapper au Mac de Lana, qui décide de les poursuivre. Course-poursuite qui se finit par une pub à peine déguisée pour Porsche.
Porsche, fiabilité et rapidité.
Le lendemain, Lana ne veut pas quitter la maison. Elle a quitté son Mac et ne sait pas où aller. Après quelques pérégrinations, lors d'une soirée en ville, Lana expose un plan à Joël. Les hommes ont la thune, les femmes ont le corps, il a une maison à dispo, elle a des copines call girl. Go trouver un arrangement.
Bah alors, on le fait? La grande fiesta fille-garçon, disons demain soir.
Non, ça va trop loin.
Mais fais-toi du blé, quoi. Deviens un jeune chef d'entreprise.
Futur chef d'entreprise.
Puis il lui pose des questions sur sa vie. Pourquoi elle est partie?
Je suis partie parce que mon beau-père n'était pas vraiment net avec moi.
Grosse ambiance. Mais bon, ça finit en dispute, elle part vénère, et pif, la voiture glisse jusqu'à l'étang, et pouf, elle tombe à l'eau, car le ponton s'écroule sous son poids. Tout dépité, notre Joël, il se fait renvoyer du lycée pour absentéisme. Et dans une jolie séquence musicale, il part rejoindre Lana à toute beurzingue en vélo, où on comprend qu'il vient solliciter son aide et sa compagnie tant il est dans l'embarras. Il se réfugie dans ses bras de dépit, il a besoin d'être rassuré, tandis qu'elle domine l'étreinte. C'est elle qui le réconforte. Une fois remise de leurs émotions, et ayant à présent vraiment besoin de fric pour pouvoir acheter une Porsche, démarre la séquence business, en montage dynamique. Un copain de Joël trésorier, Lana chargée de prod, et Joël chargée de vente.
Bon, t'as combien? 200? 100? Ne quitte pas. Regarde, ça monte à quoi? Ne quitte pas.
Quel pied, son sens des affaires. Je adieu et ta dame, scrupule. Rien que la quête libérée du tout et tout de suite. Quel capitaliste.
De retour dans le fast-food habituel, il se présente cette fois avec des lunettes de soleil pour convaincre de potentiels futurs clients parmi les ados de son âge. Après avoir démarché de la clientèle en ville, il rentre chez lui où toute une foule de call girls et d'ados excités ont déjà commencé la soirée maison close. Se pointe un vieux chargé des entrées à l'université de Princeton. Le mec se pointe en pleine soirée. Afin de faire un point sur son admission potentielle, Joel finit par l'envoyer un peu boulé.
Par moment, il faut savoir dire « et puis merde ». Il faut savoir foncer.
Je vous demande pardon.
Alors, ça avance ou deux ?
Je sens que je vais être calé.
À la fin de la soirée, après avoir fait les comptes, Tommy et Lana prennent le train de banlieue pour aller manger un bout et en profiter pour Ken tranquille dans un train de banlieue. Pour ma part, j'aurais pas choisi un train pour être peinard. Et retentit soudain In the Air Tonight qui illustre toute une scène de préliminaire entre nos deux protagonistes. J'ai particulièrement apprécié le fait que dans cette séquence, il y a une personne sans domicile fixe dans la même rame qui est en train de les mater de manière insistante. Alors, sans ménagement, Joël y profite d'un arrêt pour descendre le pauvre malheureux sur le quai, le train repart et il ken dans la rame à présent vide. C'est une scène assez surréaliste d'ailleurs, elle est sur lui, déshabillé, il est en dessous tout habillé, il y a une pénétration directe, il jouit hyper vite. Et bien sûr, la scène se termine sur un plan large du train qui part dans la nuit en provoquant une étincelle électrique sur le rail afin de symboliser subtilement l'orgasme du gars. Acte final, le lendemain, Joël va acheter une nouvelle Porsche, comme si son père allait pas faire la diff entre l'ancienne et la nouvelle. Passons. Mais de retour à la maison, le salon est vide. L'ancien Mac de Lana a tout cambriolé. Il l'appelle.
Je veux mes meubles, et tout de suite.
Fiston, écoute-moi.
Oh non, 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 c'est toi qui vas m'écouter, moi. Merde.
Et il lui rachète tous les meubles avec l'argent restant de la soirée. Donc, le prix d'une Porsche plus les meubles de bonne famille, parce qu'on n'est pas sur du casto non plus. Petite journée à 60 000 dollars minimum, je pense. Vous voulez vraiment nous faire croire qu'une seule soirée de maison close a rapporté autant de moulas que ça ? Non, non, j'y crois pas. D'autant plus qu'au chiffre d'affaires de la soirée, il faut déduire les charges de toutes les call girls pour arriver au bénéfice qui serait de 60 000. Donc imaginez l'argent récolté de base. Les parents arrivent tout pile lorsque le réaménagement de la maison est fini. Direct, sa mère constate que l'œuf est fêlé. L'œuf de cristal, là. Elle est hors d'elle, il va devoir en racheter un autre. Tandis que son père a un coup de téléphone, Joël est accepté à Princeton.
C'est dans la poche. T'en savais capable. Comme j'ai bien fait de t'expliquer que parfois on doit se dire « Eh puis zut, prendre certains risques ou quoi ?»
T'avais vachement raison.
Je suis fier de toi, mon grand.
Il vient le trouver dans le jardin pour le féliciter et lui fait un câlin. Ce qui est filmé de manière intéressante car dans cette accolade-là, c'est Joël qui domine. Son père baisse la tête tandis que celle de Joël sort la sienne de cette étreinte. Quand il avait accouru désespéré pour rejoindre Lana, c'est lui qui était en position inférieure. Et là, c'est lui qui mène la danse. Il a changé de camp. C'est là qu'on bascule sur la scène de fin, qui n'est pas la même dans la version ciné et la version director's cut. Dans les deux cas, il s'agit d'un resto entre Joël et Lana. Dans la version ciné, ils parlent de l'avenir de leur business, optimiste même si Joël part à Princeton. Et puis, on les voit marcher dans un parc à la sortie du resto, se disant que ça ne va pas être facile la distance, aussi bien pour leur histoire d'amour que pour leur business, mais qu'ils vont tenir le coup. Et ça plaisante gentiment entre eux. Puis retentit la phrase de fin, Joël qui dit en voix off.
My name is Joel Goodson. I deal in human fulfillment. I grossed over $8,000 in one night. Time of your life, huh, kid?
En VF, ça rend tout de suite moins bien.
Je m'appelle Joël Goodson. Mon business, c'est le bonheur des hommes. J'ai un brut de 8000 dollars par soirée. On s'éclate, quoi.
Dans la version Director's Cut, il n'y a pas la petite balade après le resto. Brickman, le réal, détestait cet ajout demandé par le studio ou la prod. Du coup, le plan de fin, c'est Joël qui prend Lana dans ses bras au resto. On sent là que leur histoire d'amour ou de business risque d'être compromise. Il y a un aspect beaucoup plus incertain et dramatique. On entend la même réplique de fin en voix off, de la bouche de Joël, mais ce n'est plus « Time of your life, a kid » qui ponctue le tout, mais
« Isn't life grand ?»
qui ne retentit pas pareil sur cette étreinte triste à l'écran. Ce « La vie n'est-elle pas belle ?» peut sonner plus ironique. A-t-il fait les bons choix ? Prend-il la bonne direction ? Alors, tropes et clichés. Alors pour rappel, le trope, c'est un motif thème récurrent qui donne des infos aux spectateurices. Quand ce trope devient surutilisé, il se transforme en cliché. Dans Risky Business, on retrouve quelques thèmes chers aux teen movies. L'attirance des ados pour les call girls, qui représente non seulement le sexe, mais aussi l'illégalité, un combo d'interdits à franchir ados. Mais aussi la révélation du héros, de vulnérable et poli, il se transforme au cours d'une expérience sexuelle, amoureuse, financière, en mec hyper confiant et prétentieux. Et enfin, l'aspect seul à la maison. Le chat n'est pas là, les souris dansent. J'ai l'impression que c'est un des premiers films à traiter le sujet maintes et maintes fois revu depuis, qui est l'ado seul, livré à lui-même, pendant que les parents sont de sortie. 3 années après, John Hughes, grand réal de teen movie des années 80, dont on reparlera inévitablement, écrit et réalise La folle journée de Ferris Bueller, et je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a pu être inspiré par Risky Business, alors que c'est sûrement complètement faux. Dans La folle journée de Ferris Bueller, un ado sèche les cours et se retrouve à faire le plus de conneries possible seul, dans la maison ou à l'extérieur, libéré du joug parental. Et le même John Hughes écrira quelques années après Ferris Bueller, Maman j'ai raté l'avion, qui reprend le même thème. En termes de crush, il n'y a pas trop d'hésitation possible, puisque de meuf, on n'en voit véritablement qu'une. C'est Rebecca De Mornay qui interprète Lana. Bien sûr, le personnage n'a pas de nom de famille. C'est une jeune femme plus âgée que Joël qui va le dépuceler et dont il va s'éprendre dans sa confusion entre sexualité et sentiments. Selon Joël, elle est la putain à sauver, car contrôlée par son mec. En la libérant d'un autre, il la récupère pour lui et tombe dans le cliché misogyne à la peau dure qui est très commun à l'époque, comme quoi avoir une femme à soi qui vous appartienne, c'est l'expression de l'amour. Confondre la propriété avec de l'amour. D'autant plus qu'il se sert d'elle. D'abord pour se dépuceler, mais aussi pour progresser dans son apprentissage de la Startup Nation. Confondre la domination avec de l'amour. Propriété, domination, est-ce que cela peut faire écho au capitalisme? Nous verrons plus tard. Aux yeux de nous, spectatrices, le perso de Lana n'apparaît pas spécialement fragile en soi. Certes, elle a une vie pas facile. Quand elle sort « Mon beau-père n'était pas vraiment net avec moi », ça laisse présager des bons abus sexuels incestueux. Et puis elle se fait exploiter par son Mac, qui n'a pas l'air adorable. Quelle maclée. Mais malgré ça, moi je la trouve assez forte et indépendante, presque froide. Elle ne se laisse pas marcher sur les pieds et montre peu de vulnérabilité. Elle voit en Joël une manière de se sauver de conditions de travail pas dingues et de bosser avec un gars tout gentil qui ne lui fera pas de mal, lui. À mesure qu'il progresse dans son arc narratif, elle se prend d'affection pour lui. Le rapport de force s'inverse, elle maîtrise au début et c'est lui qui est aux commandes à la fin. Il a pris du galon et a trouvé sa nouvelle vocation, businessman. Ce film me ferait presque penser à un préquel de Pretty Woman qui est sorti 7 ans après. Peut-être parce que l'amour s'invite dans un plan cul tarifé, mais surtout parce que j'ai l'impression que le perso de Tom Cruise peut devenir à terme le perso de Richard Gere dans Pretty Woman. Un golden boy qui aime faire beaucoup d'argent, solitaire, distant et antipathique, et qui sait prendre une prostituée qu'il peut acheter pour la posséder et la modeler selon ses propres désirs, puisqu'elle lui appartient, et que sa nouvelle vie dépend de lui. C'est un peu capillotracté, mais avouez qu'il y a un petit quelque chose. Fun fact, suite à leur rencontre sur ce tournage, Rebecca De Mornay et Tom Cruise entretiendront une histoire d'amour pendant 2 ans. La chanson du film. Le bon sens voudrait que ce soit All Time Rock'n'Roll de Bob Seger, le morceau qui accompagne la danse iconique de Cruise. Mais si on veut contourner l'évidence, on se doit d'évoquer The Dream Is Always The Same de Tangerine Dream, qui ouvre le film sur un rêve et ferme le film sur une réalité nébuleuse. Ou encore Love on a Real Train, du même groupe qui est la bande-son de leur zébar en train. Tangerine Dream, c'est un groupe allemand de rock instrumental électronique. C'est pas fandard, et leur nappe musicale qui rythme tout le film ne m'ont pas aidé à l'apprécier car je suis assez hermétique à ce type de son. Mais il faut reconnaître que ça crée une ambiance toute particulière qui, couplée à la lumière plutôt froide en termes de coloris, a le mérite d'inscrire Risky Business dans une esthétique loin du pop acidulé de ce que le teen movie deviendra par défaut 15 ans plus tard et encore maintenant. En termes de scène culte, réplique culte, tenue culte. Comme évoqué précédemment, tout le monde connaît la scène de la danse. Qu'il ait vu ou non le film, elle est devenue iconique. Peut-être car on assiste à un pur moment d'impro dans lequel on voit un acteur se révéler soudainement. Dans le scénario, il était juste écrit « Joël danse » pour cette scène. Et Tom est arrivé avec ses propositions, il a improvisé devant la caméra pendant plusieurs prises et ça a donné un moment magique. Il y a quelque chose qui se dégage de cette séquence d'une minute seulement. On y croit, on y est. Face à ce mec qui fait un playback foireux en plus, ça marche ? Dans la culture web, il y a aussi le mime Tom Cruise avec ses lunettes de soleil noires et son sourire de con quand il lance à Lana
« Je sens que je vais être calé !»
une fois qu'il a refusé tout fier l'offre de Princeton pendant sa grosse soirée. D'ailleurs, sachez que le modèle de lunettes que porte Tom Cruise, c'est les Wayfarer de Ray-Ban. Dans l'année qui a suivi la sortie de Risky Business, les ventes de ce modèle ont augmenté de 50%. 3 ans plus tard, quand Cruise porte le modèle Aviator dans Top Gun, ça a entraîné un boost des ventes de 40%. La marque Ray-Ban, qui se portait pas au mieux dans le début des années 80, doit une fière chandelle à Tommy. Voilà, ça concernait la scène et l'objet iconique. Quant à la réplique culte, il n'y en a pas vraiment, le film n'ayant pas été vu par une foule colossale. Mais si je dois en choisir une de mon côté, je dirais la phrase de fin, version director's cut, sûrement parce qu'elle ouvre sur une réflexion chez le ou la spectatrice. On se questionne sur le choix de ce perso, mais aussi sur nous-mêmes. Avons-nous fait des choix qui nous rendent la vie si belle? C'est le moment des trucs bien et pas bien du film, selon mon pur avis subjectif. Mais vu que le film il a 40 ans, un peu de remise en situation dans le contexte géopolitique de l'époque aux États-Unis ne sera pas du luxe. En gros, en 83, c'est Reagan qui est au pouvoir depuis 2 ans et pour encore 6 ans. Ronald Reagan, il a réhabilité le conservatisme et a tourné le pays vers la droite. C'est un président important dans l'histoire moderne des US car il a ravivé la foi dans la présidence et le respect des Américains pour eux-mêmes et il a contribué à la victoire des États-Unis lors de la guerre froide. Grâce à Ronald, on est américain et fier de l'être, et à fond dans l'idéologie du self-made man. Pour rappel, Reagan était fils de commerçant. En 83, l'économie US, elle vit un rebond après 2 récessions en 80 et 82. Rien de très étonnant sachant cela que l'idéologie capitaliste soit au centre de ce film. Selon Wikipédia, j'ai jamais fait un cours d'éco de ma vie donc ne m'en voulez pas si mes sources sont basiques, le capitalisme repose sur 2 éléments clés, la propriété privée et la liberté d'entreprendre. Bingo, on est à fond dedans. Je peux même partir dans un parallèle discutable. Dans ce film, la propriété privée de la maison et du beau mobilier ainsi que de la Porsche peut se confondre avec la belle nana mais également son réseau de boulot. Sa propriété privée devient sa source d'entrepreneuriat. Pour acheter une Porsche, il va organiser une soirée bordel dans sa maison avec l'aide de sa meuf et de ses copines prostituées. Le concept de profit poussé au maximum. Je pourrais parler plus longtemps de ce qui me gêne dans les thématiques capitalisme et prostitution de ce teen movie, mais je n'ai pas assez de connaissances sur ces 2 sujets pour pouvoir approfondir le tout. L'obsession et la réussite sociale de la société de consommation sont donc au cœur du film, et le tout depuis le regard d'un homme en devenir, ce n'est pas anodin. Pour expliciter mon propos juste avant, ce film nage dans le male gaze. Qu'est-ce que le male gaze ? Je reprends la définition de Wiki que je trouve claire et complète pour des personnes pas du tout sensibilisées au sujet. Le regard masculin, également appelé vision masculine ou male gaze, est un concept postulant que la culture visuelle dominante, photographie, cinéma, publicité, jeux vidéo, bande dessinée, etc., impose une perspective d'homme cisgenre hétérosexuel. L'histoire entre Joel et Lana est traitée sous le prisme du male gaze. Il utilise cette femme plus expérimentée que lui, en âge et en vécu, pour son propre intérêt. Se dépuceler, se transformer en mec cool qui a une copine, monter sa propre affaire grâce à elle. Il se met à exploiter ses amis à elle comme source de plaisir et ses amis à lui comme client. Lana n'apparaît pas spécialement soumise aux hommes, comme par exemple son Mac, qu'elle ne craint pas trop au final. Mais on voit qu'elle commence à développer de la considération et même des sentiments pour Joel à partir du moment où il devient successful, donc méga désirable aux yeux des femmes dans le système patriarcal. Et puis, la première scène de sexe entre Joel et Lana représente bien ce point de vue masculin. Il vient la déshabiller par derrière, alors que lui reste habillé. Elle apparaît entièrement nue à l'écran. Deuxième plan, ils sont vus tous deux nus de loin, mais il est sur elle. Et quand, dans le troisième plan sur le fauteuil, elle est sur lui, lui est de dos et invisible, et elle est segmentée. On voit son buste qui dépasse du fauteuil et ses jambes de part et d'autre, presque comme la femme coupée en deux en magie. Elle est traitée comme le fantasme de ses désirs les plus fous, à savoir un objet sexuel, un corps dominé et ou morcelé, ce qui est typique du male gaze. Essayez d'observer comment on filme les scènes de sexe hétéro dans la plupart des films antérieurs aux années 2020, et même encore beaucoup aujourd'hui. Vous pourrez constater cette manière récurrente et dangereuse à terme de filmer le corps des femmes. Oh, et puis l'affiche du film va dans le sens de tout ce qui a été dit précédemment, c'est un dessin, avec en haut le regard de Tom Cruise par-dessus ses lunettes de soleil, en bas une Porsche, qui roule sur une route, qui est un corps féminin dénudé. Summum du bon goût. Il y a aussi une variante où c'est Lana qui est dessinée de profil, habillée certes mais lascive, allongée, la tête renversée. Le tout sur le capot de la Porsche. Je sais pas si c'est moins pire, mais en tout cas, c'est pas moins beauf. Pour finir, la position de sauveur de Joël, qui se voit comme un mec qui va tirer Lana des griffes de son Mac. God, c'est mille fois vu et revu. Le chevalier blanc, là, ça m'a fait lever les yeux au ciel de lassitude. Et déjà, à l'époque, c'était vu et revu. Hein. En fait, il y avait quasiment que ça au cinéma. Histoire de tirer ce qu'il y a de positif, le film est beau, bien éclairé, il y a de très chouettes plans. Il a le mérite d'aborder des thèmes adolescents classiques, comme l'aspiration à l'indépendance et le retour glaçant à la réalité parce qu'on s'emballe, qu'on va trop vite et qu'on veut brûler les étapes, le tout avec une touche de mélancolie, désespoir et cynisme que je trouve bien dosée. C'est une comédie noire ou un drame avec des touches comiques, et ça laisse un goût amer dans la bouche, preuve que l'ensemble fait mouche. Alors, la suite de ce film. Qu'est-ce qui a découlé de ce film? Premièrement, comme évoqué plus tôt, ce film il a permis de révéler Tom Cruise dans un rôle titre et de le mettre sur le devant de la scène, ce qui a amené à son big break de Top Gun en 86. Rebecca De Mornay, qui joue Lana, a continué sa carrière jusqu'à il y a quelques années, mais dans des rôles plus confidentiels où elle n'a pas spécialement brillé. Joe Pantoliano, qui joue le Mac Guido, a eu une carrière très fournie dans des petits rôles. Ses apparitions dans Matrix et Les Sopranos ont été saluées par la critique, mais il est resté inconnu du grand public. En gros, personne d'autre à part Tommy n'a percé. Ce que je trouve intéressant dans ce film vis-à-vis de la filmographie de ce dernier, sachant que je suis loin d'avoir tout vu, c'est qu'il apparaît pour une fois vulnérable, gauche, inexpérimenté, et on ne va plus trop avoir l'occasion de le revoir dans tel rôle après, où il jouera toujours des personnages qui ont confiance en eux, qui ne tâtonnent pas dans les champs de l'incertitude. C'est comme si avec ce film, il avait appris à « fake it until you make it », fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives, et que ses persos d'après auront compris la leçon. De fait, rien que pour voir Tom Cruise dans ce rôle, ça vaut le coup de mater Risky Business. C'est quasi le seul film que Paul Brickman a réalisé, et il n'y a jamais eu de suite à Risky Business, mais il a fortement inspiré The Girl Next Door, sorti en 2004, et réalisé par un mec qui avait 11 ans quand est sorti le film de Brickman. Peut-être a-t-il vu ce film ado et a été influencé, on ne saura jamais. Avec Emile Hirsch dans le rôle de l'ado sorti de l'œuf, Elisha Cuthbert dans le rôle de l'actrice porno cette fois, qui aménage dans la maison voisine de l'ado, et le parfait Timothy Olyphant dans le rôle du producteur de film X, qui va voir d'un mauvais œil le rapprochement de son actrice et de l'ado. Je ne vous recommande pas spécialement ce dernier film si vous avez vu Risky Business. En revanche, si vous avez du mal avec le rythme et la mise en scène des films anciens, comme les films des années 80, The Girl Next Door peut-être vous plaire, mais attention, on n'est pas du tout sur la même esthétique visuelle ou sonore. Au final, on peut se poser la question, est-ce que le film entier n'est pas un teenage boy fantasy de cette époque et une bonne capsule temporelle de ce qu'on pouvait projeter dans un ado de 18 piges au début des années 80, succès dans les études et les affaires, avec les femmes et les grosses voitures. Et c'est cette génération de mecs-là qui va se retrouver à réaliser des films, dont des teen movies, 20 ans plus tard, ce qui pourra expliquer pas mal de choses. On aura l'occasion de revenir sur le male gaze dans de futurs épisodes, peut-être le prochain, qui sait. D'ici là, questionnez ce que vous voyez. Si un film ne vous plaît pas, c'est peut-être qu'en plus de ne pas vous toucher, il y a quelque chose qui vous dérange. Et si un film vous plaît, demandez-vous pourquoi également. Qu'est-ce qu'il conforte en vous, et est-ce une bonne chose pour vous ou les autres? Et si on disait qu'en 2023, je sors un podcast sur les teen movies chaque dernier jour de chaque mois? Ça en ferait 12. Ce serait pas mal. On va essayer de s'y tenir. Bisous !